Donc j'ai plaisir à jouer ce rôle-là, mais ce qui va être très très court, et sur quand même une question qui est centrale, parce que quand on parle d'innovation, notamment dans le système éducatif, on achoppe toujours sur deux choses, le passage à l'échelle, mais derrière le passage à l'échelle, ce qu'on peut dire, c'est la question de l'évolution de l'évaluation, en fait de tout ce qui est contrôle, que ce soit le contrôle du temps. Et là, ce que va nous présenter Pierre, c'est comment accompagner le développement de la formation continue en assurant un contexte et des conditions justement de qualité, de mise en œuvre des évaluations à distance avec un dispositif qui va nous faire découvrir. Et on sait aujourd'hui que si on n'arrive pas à transformer les pratiques d'évaluation, si on continue à dire l'évaluation, c'est des centres partout, mais économiquement, on ne va pas y arriver. Et donc là, on a vraiment, à la fois ce qui est souvent traité en dernier, mais ce qui est également premier dans l'innovation pédagogique. À toi.
Merci Didier. Bon, je vais essayer de tenir les délais. J'ai 10 minutes, un quart d'heure. Vous me faites des grands signes aussi. Alors, bien sûr, voilà le premier transparent. On est dans le cadre d'un projet soutenu par le ministère, MIPNES, DGCIP, comme un test tout de l'avant. Pourquoi ? Parce que le ministère pense bien que ça vaut le coup d'aider des trucs qui ont un effet transformant. C'est le principal dans cette affaire-là. Alors, on fait un constat. Nous, c'est MU, on va dire, ici, l'Université de Caen. On est centre pour la pédagogie numérique, ça, je crois que vous avez compris. On est aussi centre pour la formation à distance de l'établissement. Donc, on s'occupe d'aider les composantes à faire de la formation à distance. Dans la formation à distance, on fait un constat, c'est qu'on a des doutes sur le fait que les chances de réussite soient les mêmes pour les étudiants présentiels et les étudiants à distance. Pourquoi ? Parce qu'on constate une stratégie qu'ont les étudiants à distance, qui est de venir se présenter qu'en deuxième session. Ce n'est pas tellement vrai dans les années précédentes, c'est vrai depuis quelques années, comme par hasard, depuis que la deuxième session du semestre 1 et du semestre 2 sont en même temps au mois de juin. Donc du coup, les étudiants, ils se déplacent une seule fois, viennent en juin, et ils passent les examens du semestre 1 et du semestre 2, ce qui n'était pas le cas quand on fait les venir en septembre. Pourquoi ils font ça ? C'est évident, ils sont à distance. Ça veut dire que s'ils sont à distance, ils n'ont pas les mêmes degrés de liberté que les étudiants présentiels. Peut-être qu'ils travaillent, et qu'ils ne sont pas si loin que ça. Peut-être que dans formation à distance, le mauvais ami, c'est le mot distance. Ils ne sont pas forcément très loin. Mais en tout cas, ils peuvent être très loin. Et en tout cas, ils sont empêchés de présentiel. Et ils ne peuvent pas venir se déplacer. Et c'est compliqué pour eux. C'est compliqué, voire même cher. Donc voilà. Alors c'est embêtant quand on cherche. Est-ce que la formation à distance répond aux mêmes enjeux que la formation présentielle ? Est-ce que c'est les mêmes chances de réussite ? Le débat est biaisé, parce qu'il faut prendre en compte ça. Alors, aujourd'hui, les étudiants ne comprennent pas, et ils ont raison, qu'on leur propose des formations en e-learning et que l'évaluation ne se fasse pas en e-learning, qu'on leur demande de venir dans des universités passer des examens classiques. C'est ce que disait Didier tout de suite. Il faut prendre cette logique-là, il faut l'entendre, et elle est de bon sens. Donc, c'est à nous de nous adapter. Je vous rappelais la vidéo ce matin avec François Taddeï, c'est à l'enseignement supérieur de s'adapter à ses publics et pas le contraire. Bon, et derrière ça, il y a la culture du oui qui est écrite comme une proposition dans la Stranes. Il faut qu'on soit en train de dire oui à un problème plutôt qu'en train de dire « bah non, on peut pas ». On a essayé de dire autre chose. Et puis, mine de rien, si on ne fait pas ça, c'est un manque d'attractivité. Alors, quelles peuvent être les solutions ? Alors, je passe très vite. Ça peut être des centres délocalisés, ça peut être de repenser l'évaluation. C'est intéressant de repenser l'évaluation. Tout ne se traite pas forcément dans l'examen écrit. Peut-être qu'on peut faire des oraux, peut-être qu'on peut faire des choses. Peut-être qu'il y a certaines évaluations où on n'a pas besoin de certifier que la personne en ligne, c'est bien celle-là. Parce que c'est souvent ça, le problème. C'est qui est au bout au bout de l'ordinateur. Bon. La solution qu'on a expérimentée ici, c'est la télésurveillance d'épreuves à domicile par webcam. L'étudiant est chez lui, il a un ordinateur, une webcam. De l'autre côté de la webcam, il y a un surveillant, il le surveille, il vérifie que c'est bien lui, que l'examen s'est réalisé dans des bonnes conditions, que l'examen n'a pas été perturbé, qu'il n'y a pas une ribambelle de copains qui est venu prendre l'apéro pendant que l'étudiant passait son examen, que tout s'est fait dans les clous, et que donc du coup c'est validable comme un examen. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, dans les universités, aujourd'hui, on a un problème. C'est un problème de masse salariale et de potentiel humain. On n'a pas forcément la possibilité de dire on va avoir 15 personnes qui vont être là pour surveiller des examens. parce qu'on ne les a pas, les 15 personnes. Donc il faut se tourner vers des prestataires dont c'est le métier, la télésurveillance. Alors vous connaissez tous la télésurveillance pour la sécurité de votre maison pendant les vacances, ou la télésurveillance ou les plateformes de télémachin pour les gens qui vous appellent pour vous vendre des produits. Bon, ben là, on s'est tourné vers d'autres prestataires qui sont spécialisés dans la télésurveillance d'épreuves. En France, quand on s'est attaqué à ça, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a un à Montpellier. Et encore, c'est un truc très particulier. C'est du QCM en ligne. C'est un peu spécial. Donc, on a fait la liste des services qu'on pouvait mobiliser. Et puis, on en a retenu un, qui est le même que celui qui a été retenu par FUN pour la certification des MOOC. C'est une boîte qui s'appelle Proctor U et qui fait de la télésurveillance de longue date aux États-Unis, dans un mode où c'est un surveillant humain qui surveille un étudiant qui passe chez lui son examen. Il y a d'autres modes, la surveillance, je ne vous en parle même pas, parce que ça, c'est autre chose. NIL, qui veille à la question des données à caractère personnel, pour l'instant est vent debout contre ce truc-là, ça ne marcherait pas. Alors, donc, il est urgent d'expérimenter. Expérimenter pourquoi ? Bah, pour évaluer, de savoir si sur un nombre significatif d'étudiants, ça répond aux besoins, pour mesurer s'il y a des freins, ou au contraire, s'il y a vraiment que de la demande, et dans ce cas-là, la demande, bah, faut qu'on y réponde. Je vous parlais de transférabilité tout à l'heure dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. C'est aussi ça qu'il faut pouvoir transférer. C'est est-ce qu'on répond à un besoin ? Est-ce que l'idée est bonne ou pas ? Bah, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, hein, c'est d'essayer. Et puis, il faut vérifier que les conditions de contrôle de l'identité sont bien vérifiées, quelque part vis-à-vis des organisations, des équipes pédagogiques, vérifier qu'il n'y a pas plus de triche dans une télésurveillance que dans un examen classique. Tout le monde va vous dire oh, « Moi, j'ai des doutes là-dessus, hein, ça ne va pas le faire. Alors là, il va y avoir un truc sur le bureau, il va y avoir des trucs, c'est pas possible. Seul l'examen en présentiel est fiable. » Bon, ça serait, hein, si l'examen en présentiel était fiable. Aujourd'hui, surtout avec les téléphones, les iWatch, les machins, les bidules. Et puis, si c'était le cas, il n'y aurait pas de commission disciplinaire dans les établissements. Ça existe depuis des lustres. On voit bien que l'examen présentiel n'est pas fiable. Donc, ça veut dire que toutes les idées doivent être un peu taillées en brèche, de ce point de vue-là. Et puis, il faut réfléchir aux conditions d'expérimentation de ça d'extension à de la formation à distance, tout établissement confondu. Alors, on est dans une deuxième année d'expérimentation. L'année dernière, on a expérimenté en faisant un truc facile. C'était du QCM de C2I. Alors là, ça, c'est bon. On les avait, les étudiants. Ils étaient pour partie dans l'établissement. On avait pu les coacher. On leur a demandé, est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer un examen en pyjama ? Oh, ben non ! Bah, vous avez la possibilité. Voilà, bon. Et puis là, dans une deuxième année, c'était un peu plus compliqué que ça, parce qu'on s'est adressé à un vrai public cible de ça, qui était des étudiants qui étaient inscrits dans un Master 2 de formation professionnelle dans le domaine du management de la santé et du social, et qui, venaient passer l'examen en télésurveillance à la place de l'examen présentiel qu'ils auraient pu passer. Alors que les autres, en C2I, bah, c'était en plus, et puis si ça merdait, bah, tant pis, ils venaient passer l'examen normal. Là, ce n'était pas le cas. Donc, c'était beaucoup plus tendu. Et le besoin était beaucoup plus fort, mais le stress beaucoup plus fort également. Il faut répondre aux deux, le besoin et le stress. Alors, le prestataire qu'on a utilisé, Proctor U, ça marche comment ? Eh bien, il y a un service 24 sur 24, 7 sur 7, avec des gros centers, machin, avec plein de surveillants qui surveillent plein d'épreuves en ligne. Et puis, c'est une solution qui a déjà été, je vous l'ai dit, été sélectionnée par FunMOOC, qui a été appliquée dans pas mal de MOOC ici en France, y compris ceux de Centrale Lille. Nous, on est les premiers à utiliser ça dans un contexte diplômant dans une formation universitaire. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors, c'est des Américains, c'est pas facile. Pour la petite histoire, quand on a contractualisé avec eux, c'était il y a 2 ans, au moment où le Safe Harbor, qui était le cadre réglementaire d'échange des données entre la France et les États-Unis, a été rendu caduque par la Commission européenne suite à l'affaire Snowden. C'est la loi de l'emmerdement maximum. C'est la tartine qui tombe du mauvais côté. Bon, bah, c'est comme ça. Ça nous a un peu mis des problèmes, mais c'est pas grave. Il faut dépasser tout ça. Ça a un modèle économique, $17.50. Alors, tout à l'heure, vous avez peut-être entendu 80 € pour le cadre de la certification dans les MOOC, FunMOOC. Oui, parce que sur les 80 €, on paye Proctor U, et le reste, c'est pour partie 50-50 l'établissement, pour partie 50-50 Funbook. Ben oui, plus il y a d'intermédiaires, plus les coûts. Bon, voilà. C'est normal. Alors, et puis il faut se poser la question des données à caractère personnel. Alors, comment ça se passe ? Ben, l'étudiant, il crée un compte chez Proctorus, c'est gratuit. Il va aller tester sa bande passante, sa webcam, son son, son machin, son bidule. Le jour de l'épreuve, il va se connecter sur son compte chez Proctorus. Il va installer une petite applette à usage unique qui va permettre au surveillant de prendre le contrôle de son ordinateur, d'aller fermer son outil de mail, fermer son navigateur Internet s'il n'a pas le droit à des ressources en ligne. Bref, le mettre dans la condition qu'il faut et lui donner accès avec un mot de passe à l'endroit où il devra déposer sa copie sur la LMS de l'établissement. Donc la copie n'est pas chez Proctorus, elle est bien chez Unicamp. Voilà. Et puis le surveillant surveille normalement. Quelques résultats issus de l'année passée, 5 minutes. 50 étudiants impliqués, volontaires, pour passer de la télésurveillance à la place de l'examen classique, en même temps que l'examen classique. Ah oui, parce que ça, c'est un petit truc. Vous pouvez avoir des centres délocalisés à Tombouctou, à tout ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas dans les mêmes fuseaux horaires, ça veut dire qu'il faut expliquer à vos équipes pédagogiques qu'il faut faire autant de sujets qu'il y a de faisceaux horaires dans la formation à distance. Ça, ils ne vont pas être d'accord. Hein. Tandis que là, la télésurveillance, si l'étudiant il a à se lever à 3h du matin pour passer en même temps que quelqu'un qui passe à Caen, ce n'est pas un problème, mais en tout cas, il n'y a qu'un seul sujet. Plus de 200 examens passés en télésurveillance, taux de réussite globalement similaire, heureusement, sinon on arrêterait tout d'emblée. Et puis, accès au service, 84% sont OK. Absence de l'enseignant, est-ce que ça les dérange ? Bah oui, alors là, moi, je suis tombé de mon piédestal si je tentais que j'étais debout sur un de ceux-là. Je pensais que quand on surveille des examens, les étudiants sont rassurés qu'un enseignant soit là. Il lève la main. « Monsieur, vous pouvez me dire pourquoi vous avez écrit la question comme ci, comme ça, machin ?» Bah, ils essaient d'avoir des réponses aux questions. Eh bien, en fait, non. Quand on leur pose la question « Est-ce que le fait que l'enseignant soit là, ça vous dérange ?» Eh bien, plutôt oui. En fait, ils se sentent évalués deux fois sur la copie qu'ils font et sur la façon de la faire. Et ça les embête. Et si l'enseignant n'est pas là, c'est pas plus mal. Bon, bah, des mecs comme moi, on apprend ça à brosse-poil. Hein, mais bon, il faut entendre, hein, ces trucs-là. Et puis, est-ce que les étudiants se sentent dans une capacité de triche ? Oui, parce que la sécurité, c'est pas tant les conditions physiques ou matérielles de la triche, c'est la capacité dont on se pense qu'on peut tricher. Si quelqu'un se sent en confiance pour tricher, il va peut-être tricher. S'il se sent pas du tout en confiance, il va pas le faire. Et là, à 70%, donc c'est quand même pas neutre, les étudiants nous ont dit « Ah non, 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 c'est pire même qu'en présentiel !» Il y en a même une qui nous a dit « La webcam, elle s'arrête jamais. » Bon, alors du coup, ça fait bizarre, quoi. Bah, ça répond à la question, donc on va pas tourner autour du pot, c'est bien. Alors, l'avis global est plutôt très très positif. 2% des étudiants ont vécu une espèce de sentiment d'intrusion. Ça s'entend, ça s'écoute. 80% recommanderaient à un copain d'en faire autant. 90% sont satisfaits et préfèrent assumer des conditions techniques. Ah bah oui, parce qu'on leur a dit quand même. Bon. L'idée, c'est de changer un peu la façon dont ça se passe. L'étudiant, c'est pas le cobaye sur lequel on va se lâcher, qu'on va pressurer dans tous les sens, qu'on va malmener pour son examen. L'étudiant, il est partenaire de l'établissement dans la réalisation de son évaluation. Et c'est ça qu'on leur dit. On leur dit, bah, y a des trucs qui nous incombent, c'est le sujet, le fait que ce soit lisible, praticable, qu'on puisse le traiter dans le temps imparti. Puis il y a des trucs qui sont de votre côté, c'est qu'il faut que vous ayez de l'électricité, pas la ribambelle de potes qui déboule pour l'apéro, la connexion Internet, que vous soyez dans des conditions acceptables. Bon, bah donc, du coup, quand chacun est face à ses obligations, on est dans une relation de partenariat, et ça se passe mieux, et avec des adultes, finalement, c'est tout à fait possible. Y a un truc fondamental, c'est que quand bien même on pourrait dire qu'on va confier la télésurveillance à un prestataire à côté, y a un accompagnement humain qui est hyper important. L'accompagnement humain, il est là dans l'amphi, et je voudrais la remercier. C'est Valérie Cochard. Si Valérie Cochard n'était pas là, je ne vous parlerais de rien aujourd'hui et je serais terré sous le banc de l'amphi à me faire tout petit. Donc c'est essentiel. Elle a complètement accompagné tous les étudiants, pour leur dire « Est-ce que vous avez fait vos tests ? Est-ce que c'est bon ? Les bandes passantes, tout ça ? Est-ce que tout est au vert ? Malgré ça, on en apprend toujours. On va donner un exemple. Deux étudiantes nous avaient dit « Oui, oui, moi c'est bon, une minute, j'ai fait mes tests, c'est bon, c'est OK. » Bah oui, sauf que les deux étudiantes, elles avaient une chambre chez le même logeur, sous la même box. Le jour de l'examen, les deux, clac, la box, elle tombe. Des trucs comme ça, on est obligé de le voir par... Mais alors, c'est elle qui se récupère les problèmes. Donc merci, merci, merci à elle. Quelques problèmes, bah, il y en a toujours. 5% à peu près de problèmes techniques de tout genre. Alors quand il y a un problème, en général... soit le problème est vraiment technique et les personnes ne peuvent pas se connecter, c'est la merde complète, c'est vraiment pas sympa. Soit c'est des problèmes linguistiques, le surveillant est américain et il parle un américain avec un anglais façon chewing-gum et personne ne comprend et c'est compliqué. Soit ça peut être des problèmes autres. Bon, quand c'est des problèmes autres qui interviennent dans la surveillance, le principe c'est que le surveillant il n'arrête pas l'examen, il enregistre en vidéo ce qui se passe et il envoie à nous, établissement, la vidéo. Donc, bah, prenez la décision, qu'est-ce que vous faites là-dessus. Je vais vous donner une petite anecdote, très rapide, dans la demi-minute qui me reste, même pas. Dans l'examen, on avait dit, l'étudiant, il n'a pas le droit de se lever, il n'a pas le droit d'aller aux toilettes, il doit faire ses besoins avant, il n'a pas le droit de faire tout ce qu'il faut. Bon, d'accord, ok. Donc le surveillant, il se dit, l'étudiant, il est là, il ne doit pas en bouger. Et si jamais il en bouge, il envoie la vidéo, il fait un rapport d'incident. On a eu un rapport d'incident. There is a mouse in the house. Bon, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une souris. Bah oui, c'est normal, il y a un ordinateur. Tout. Mais non, c'est parce que la fille, elle était en train de composer. Il y a son chat qui est rentré dans sa piole avec une souris à la bouche. Ravi comme tout, fier comme Artaban. Et donc, la fille... je vous en passe des meilleurs. C'est des trucs, ça ne peut pas s'improviser. Enfin, ça ne peut pas se... pas s'improviser, mais s'anticiper. Voilà, alors en bref, parce que j'ai plus de temps, c'est un sujet, la télésurveillance, en pleine effervescence. Moi, je crois même que c'est une question importante, c'est une espèce de plafond de verre de la formation à distance. Tant qu'on n'aura pas répondu à ce qu'on appelle l'alignement pédagogique, c'est comment est-ce que les conditions d'évaluation sont en phase avec les conditions de formation, la formation à distance sera bancale tant qu'on empêchera les gens d'être dans des conditions d'évaluation e-learning, là où la formation est en e-learning. Donc il faut trouver les éléments nouveaux, les façons de faire nouvelles pour dépasser ce problème-là et donner de l'attractivité à la formation à distance. Il y a un modèle économique à prévoir, il y a tout un tas de boulot à faire avec la CNIL pour leur dire que oui, il y a peut-être de la donnée à caractère personnel, mais c'est dans le bon intérêt de l'étudiant et puis des parties prenantes et puis tout... je ne détaille pas, mais on y sue à grosses gouttes et on y laisse un temps fou. Et on est en train, actuellement, avec le ministère, de travailler à une réédition de l'acte réglementaire entre le ministère et la CNIL, avec comme annexe un document qui s'appelle le SDET, le schéma directeur des espaces numériques, machin, je vous en passe des meilleurs. Et là-dedans, on va mettre la télésurveillance. C'est-à-dire que dès que la CNIL aura validé ça, et c'est en ce moment dans les tiroirs de la CNIL, le paysage universitaire va changer. C'est-à-dire que là où les universités, en ce moment, n'auraient pas le droit de faire ça, ils auront le droit. Voilà. C'est pour ça que c'est transformant. C'est à ça que ça sert, les AMI de la MIPNES. C'est à faire des choses qui servent aux autres. Tout ce qu'on peut faire pour les autres, ça sert pour tout le monde. C'est la société apprenante. Je vous renvoie ce matin.